Fakir numéro 84, Vachalet, un député à la ferme. Tout l'automne, on a suivi les états généraux de l'alimentation. Et depuis des années, on publie des dossiers sur le porc breton, les cerises, les poulets doux. Après Martine à l'hôpital psychiatrique, c'était l'occasion d'un nouveau volume de notre série qui sort ce mois-ci, entre les dorures de l'Assemblée et la gadoue des pâtures, entre les coulisses des discussions et les reportages dans les élevages. Ce matin, je prenais la parole à la tribune de l'Assemblée avec autour de moi les dorures, les peintures, les lustres, les huissiers à chaîne en or, les tapis moquetés sous les pieds et je glosais sur un autre cap pour l'agriculture, un nouveau contrat social. En cet après-midi, contraste que j'apprécie, je patine dans la gadoue. Un chien me tourne autour, je suis nulle en race de chien, comme en variété de fleurs d'ailleurs, dans un bled de ma circo. Le Mège, à la rencontre d'une agricultrice, Isabelle Marlot. Je l'avais croisée durant ma campagne, ce printemps, à un débat avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Ils avaient installé une table sous un hangar avec un thermos de café et ils auditionnaient tous les candidats, de la droite, d'En Marche, du PS et moi, sauf le FN qui n'avait pas fait le déplacement. J'avais tenu presque au mot près le même discours que pour les opposants à la ferme des 1000 vaches. Et il était évident qu'ici, je n'étais pas le chouchou, même si j'étais reçue avec sympathie. C'était un peu formel, la visite officielle, le discours politique, les petites piques entre prétendants. Et puis après, on a continué à causer. C'est mon métier de poser des questions, j'aime ça. Et plus les gens sont différents de moi, et plus j'aime ça. On dit « qui se ressemble s'assemble », mais moi souvent, « qui me ressemble m'ennuie ». Et donc, elle qui lâche. En ce moment, c'est dur, très dur. On serre les fesses, il faut encore que j'aille négocier avec ma banque. Une fois élue, je me suis dit « j'aimerais bien la revoir, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que ses soucis s'arrangent ?» D'où mon passage aujourd'hui, même si ça a traîné à cause de mon agenda, du sien, des rendez-vous pris puis annulés. Son frère est là, un barbu, Pascal, et sa fille, Marion. À trois, ils sont associés du GAEC, 270 hectares et une soixantaine de vaches. Ils n'habitent pas sur place. Du coup, on prend le café dans un genre de caravane ou d'Algeco. Comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'aimais la ferme. Mais j'avais 5 frères, donc ça n'était pas pour moi. Mes parents ne voulaient pas que je reprenne. Ce n'était pas une époque où on demandait aux enfants, aux filles encore moins, « qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai fait secrétaire comptable, je travaillais à la cantine des impôts. Enfin, au restaurant administratif, les fonctionnaires n'aiment pas qu'on dise cantine. Vers 60 ans, mon père en a eu marre de ces bétails-là. C'est Pascal qui est venu me chercher. « Isabelle, ça ne te dirait pas de revenir ?» Moi, je dis oui tout de suite, je signais dans la nuit. Mais j'avais un mari, une famille. Il a fallu s'organiser pour quitter la ville, s'installer à la campagne, prendre un congé SIF. Jamais je n'ai regretté. Durant mon enfance, avec ma famille, les grands-oncles, les cousins, mon père aussi, j'ai grandi au milieu de ça, des paysans. Enfin, ce mot n'était jamais prononcé. On disait cultivateur, agriculteur, ça faisait plus technique et ça correspondait mieux à leur activité, à leur fierté. C'était, dans mon souvenir, un monde de certitude, d'affirmation haut et fort. Ça se fâchait vite, et ça rendait les causeries compliquées. Ça a participé, je crois, de mon éloignement. Depuis que j'y reviens, comme reporter, puis comme député reporter, c'est peut-être la chose qui me surprend, le doute. Le doute qui s'est installé, et qui tolère le mien de doute, qui le rend audible, voire fertile. Ce doute, à coup sûr, a d'abord des racines économiques. Quand on s'est vu en mai, vous aviez l'air angoissé. Je le suis toujours. L'année dernière, avec la chute des cours, ça nous a fait 70 000 euros en moins. Tout l'argent de côté, on l'a mangé en un an. Le gros souci, reprend Pascal, c'est les prix. C'est catastrophique. Notre exploitation repose sur le blé et le lait. Et d'habitude, on a toujours l'un qui rattrape l'autre. Le blé est à 135 euros. Il y a 2 ans, il était à 200. Le prix de revient est à 150 euros. Donc on y perd. Mon père, il avait un cours du lait à 2 francs 20 centimes, il y a 30 ans. Là, à 330 euros les 1000 litres, ça n'a pas bougé. 33 centimes d'euros. Sachant qu'on a pour 15 à 20 centimes de nourriture par litre. On le vend à la coopérative au tarif A ou au tarif B. Le A est vendu comme le lait, le B deviendra du fromage, du beurre. Donc tous les 3 mois, on doit se positionner. C'est la bourse. Faut parier sur les cours du A et du B. Nous, on vise la sécurité, on reste comme on est. Votre métier, c'est pas de faire boursicoteur. Exactement, exactement. Eux sont ballottés dans un univers financier assez mystérieux, énigmatique. Là, le cours mondial est à 227. En Europe, c'est à 307. Je vois ça sur mon téléphone, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Depuis la fin des quotas, en théorie, on peut produire comme on veut. Mais on en est arrivé à des trucs aberrants. Comme on savait que le marché allait être envahi, on a reçu une prime pour qu'on ne produise pas, pour qu'il y ait moins de lait et que ça ne fasse pas chuter les cours, en prévision des importations. De toute façon, les primes PAC, c'est 70% de notre revenu. On se dit, mince, il y a un truc qui ne tourne plus rond. Voilà pour les chiffres, pour l'économie. Et ça compte. Tous les jours, eux comptent. Mais c'est sur le sens de leur métier. Encore davantage, peut-être, sur sa place dans la société que le doute s'est installé. Et c'est là-dessus que, avec eux, je m'attarde. Nous, on se dit, on nourrit le monde. Mais là où on se sent de plus en plus mal, c'est l'environnement. Je me sens mal quand je sors avec ma machine à traiter. Et on a des terres sur Amiens. Oula, là-bas, c'est compliqué. Bon, le syndicat essaie d'arranger les choses, mais on verra. Les gens entendent tellement de choses, ils nous prennent pour des pollueurs. C'est comme là, sur le glyphosate. Combien de cas de cancer ça produit? Dites-le-moi, le CO2, c'est 30 000 cas. Est-ce qu'on interdit les voitures? Je grimace. Lui se lance dans la science. C'est un désherbant, alors moi, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible qu'on en retrouve dans le blé, même dans les lentilles, alors que ça devrait tuer les plantes, en théorie. Déjà qu'il y en ait dans les nappes phréatiques, je n'ai pas compris, il va falloir nous dire comment on fait sans ça. Dire « demain, on passe tout au bio », c'est bien gentil. J'hésite, prudent. Comment dire le désaccord et ne pas rompre le dialogue? Bon, des preuves que le glyphosate est mauvais, il y en a des bouquins entiers, et que Monsanto achetait les scientifiques, c'est à lui, à son tour, de faire l'amour. Ouais, mais des preuves dans l'autre sens, il y en a aussi. Il n'y a rien de démontré. Sinon, l'Europe ou l'État, ils auraient prohibé ça depuis longtemps. Bon, on ne va pas y arriver par là. Par les statistiques, les composés chimiques, etc. On va essayer par un autre bout. Dans vos propos, je reprends, il y a 2 choses qui se confondent. Vous dites « on ne peut pas travailler sans » et du coup, ça vous amène à défendre le produit, à contester sa nocivité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous raisonnez un peu à l'envers. Comme vous ne pouvez pas vous en passer, vous déclarez que ça n'est pas si mauvais. Vous voyez? Oui, vous avez raison, il concède. Ouf, 1 point. Plutôt qu'on puisse se demander ensemble, bon, si on doit s'en passer, comment on fait? Quel surcoût ça engendre? Ouais, je ne sais plus comment, mais après ça, assez vite, sa nièce Marion a enchaîné sur les veaux. On a des niches individuelles. Eh bien, depuis septembre, on doit les mettre face à face, pour qu'ils se voient. C'est une norme pour leur bien-être. Sauf que quand des veaux se lèchent l'un l'autre, ça transmet des maladies. Et elle embraye toute seule. C'est comme tous les trucs des véganes, là, dans les abattoirs. Non mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bientôt, il faudra aller caresser les bêtes jusqu'à leur dernier moment. Je fais un paquet avec tout ça, avec toutes ces remarques. Ce qui m'embête dans tout ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir une forteresse assiégée. Vous vous sentez attaqué, et du coup, toute interrogation de l'extérieur s'est prise comme une agression. Vous vous repliez. C'est vrai. Et vous voyez bien comme ça peut être négatif, parce que du coup, les agriculteurs se coupent de la société, des demandes de la ville, alors qu'il faudrait recoudre ça. Et qu'est-ce que vous faites, vous, pour recoudre ça? Eh bien, je suis là. Je suis là, je vous écoute. Je discute avec vous et je vous livre mes points d'accord et de désaccord. Et demain, je rencontrerai des gens ailleurs, des militants, mes collègues députés, et je leur dirai mes points d'accord et de désaccord pour qu'on trouve ensemble un chemin. Pour se dégourdir les jambes et pour la photo Facebook, on fait un tour dehors. On patauge dans la boue. Devant nous, le hangar est ouvert. Nos vaches entrent et sortent librement, jour et nuit, commente Isabelle. Elles peuvent sortir dans la pâture, revenir à leur abri, se nourrir au silo. Mais vous n'êtes pas sûr qu'elles mangent assez alors? Si, tout ça c'est contrôlé. Elles sont badgées. L'inconvénient, c'est que plus elles vont à l'extérieur, plus elles sont sales, plus il peut y avoir des germes dans le lait. Donc ça va contre les normes. Au fond, on est encouragé à enfermer, à bétonner. J'évite comme je peux les flaques d'eau. Nous, on n'est pas trop béton. Pour les réserves de maïs, on a installé des coussins. C'est un genre de grande bâche en plastique sur la gauche, en extérieur. Même si pour ça, on ne reçoit pas de subvention. Elle me montre un coin plus loin. Pour épurer l'eau, vous voyez là-bas, on a planté des roseaux. Ça marche bien, ça filtre. Ça m'amuse ce paradoxe. Eux pestent contre les écolos, mais en pratique, ils sont déjà en transition. Ils ont fait quelques pas. Et l'enjeu réside là pour moi. Des Pascal, des Isabelle, des Marion, comment on les fait glisser, pas vers le bio, mais vers une autre agriculture? Comment on rend ce changement socialement viable, économiquement rentable? On pourrait faire partir nos bêtes à l'herbe, mais il faudrait le double de surface. Si le consommateur veut des vaches en pâture, on peut, mais il faut que le prix du lait suive, parce qu'elles produisent plus quand elles mangent à l'auge. Il y a du doute sur le chemin à suivre, de l'incertitude. Mais pour moi, c'est tant mieux. C'est la pensée qu'on laisse respirer ce doute. Comme on dirait, vous savez, il y a du jeu. Ce jeu qui permet aux pièces de se mouvoir. Les idées pas encore fixées. Les jeux ne sont pas faits. Les choses ne sont pas figées. Le champ des possibles, ouvert. Comme parlementaire, j'ai joué le jeu moi aussi. Je me suis tapé les grands messes des états généraux de l'alimentation voulus par Macron. J'ai sagement assisté aux auditions. J'ai visité Rungis avec la commission. Je me suis investie sur ce dossier, pas mal, les premiers mois de mon mandat. Tout en craignant qu'on se borne à un problème de plomberie. La répartition de la valeur ajoutée entre producteurs, transformateurs, distributeurs. Soit, soit. Mais au-delà, quel contrat social voulons-nous? Quel cap fixons-nous? Quelle agriculture pour quelle alimentation? Le président, son gouvernement n'offrent aucune réponse, aucun cap, aucun contrat social. Le tout est laissé, comme redouté, à la force de l'inertie et des lobbies. Avec ce livre, avec ces reportages publiés ici, je ne prétends à aucune vérité intangible. J'affiche peu de convictions arrêtées. Au contraire, presque. Mon premier impératif est de comprendre. Comprendre d'abord. Comprendre l'aviculteur breton. Comprendre le marché au cadran de Plérin. Comprendre les informaticiens qui s'essaient maraîchers. Comprendre le producteur de porc et de cerises et de vaches. Et c'est mon doute que je balade des abricotiers de la Drôme au ministère de l'Économie, des couloirs de l'Assemblée nationale au poulet du Cameroun, de la cafette de Agro-Paritech à un abattoir de poulet, des rayons de Leclerc aux terres du Burkina. À la lumière de ce doute, me semble-t-il, se dessinent sans les figer les contours d'un nouveau cap, d'un nouveau contrat pour l'agriculture. François Ruffin.